Natacha Crioux. Et on commence avec une étude parue dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les systèmes solaires se volent des planètes et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense.
Oui, les planètes se forment autour de jeunes étoiles et cette formation ne se fait pas de façon uniforme dans la galaxie. Elle se forme en amas. Les systèmes planétaires, donc l'étoile jeune et son cortège de planètes, peuvent donc être proches les uns des autres et interagir gravitationnellement. La gravité d'un système peut modifier l'autre système planétaire, ce qui va modifier le mouvement des planètes autour de leurs étoiles. Certaines peuvent même être éjectées de leur système et devenir des planètes errantes, ou être capturées par un autre système planétaire. Des chercheurs britanniques ont étudié la dynamique d'un amas d'étoiles et par modélisation, ils ont calculé au cours du temps quelles sont ces interactions entre les planètes et les étoiles. Ils ont découvert que ce phénomène de rapt est plus fréquent qu'on ne le pensait, ils parlent même d'un grand braquage planétaire, une planète sur 50 pourrait avoir été volée par une autre étoile. Héloïse Méheux est chercheuse CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
Ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont étudié la dynamique d'un ensemble d'étoiles autour desquelles il peut y avoir eu formation d'une planète. Et ils classent les planètes en différentes populations, donc principalement celles qui sont restées autour de leur étoile où elles se sont formées, les planètes qu'ils appellent préservées. Il y a aussi les planètes qui ont donc été capturées après une phase d'errance. Et dernière catégorie, les planètes volées, c'est des planètes qui ont été transférées d'un système planétaire à l'autre sans passer par cette phase d'errance. Puis compare les propriétés de ces différentes populations de planètes. Dans les régions denses de formation stellaire, les planètes qui ont été capturées elles sont statistiquement plus loin de leur étoile que les planètes préservées dans leur système d'origine, mais aussi que les planètes qui ont été volées directement d'un système planétaire à l'autre. Mais aussi que la forme de l'orbite, de l'ellipse et l'inclinaison de cette orbite pour les planètes capturées et pour les planètes volées, sont assez semblables statistiquement, mais est différente de la population de planètes préservées. Et tous ces résultats, ils me paraissent intéressants pour comparer aux populations d'exoplanètes observées, dont on peut mesurer les caractéristiques des orbites. Et donc, ça permet de donner des indications permettant d'estimer dans quelle mesure ces planètes, ces exoplanètes, ont eu une chance d'avoir été formées sur place ou dans un autre système planétaire, et comment elles ont pu être transférées d'un système planétaire à l'autre.
Est-ce que notre système solaire a pu voler une autre planète?
Alors c'est une question en effet que les auteurs se sont posées, puisqu'il y a une recherche actuelle d'une éventuelle 9e planète dans notre système solaire, qui n'a pas encore été détectée, donc on ne connaît pas les caractéristiques, mais on a une idée du type d'orbite qui pourrait exister si cette 9e planète existait. Et ils essayent de contraindre, dans le cas où cette 9e planète existerait dans le système solaire, de contraindre l'origine de cette 9e planète. Ils proposent que, du fait des caractéristiques attendues de cette 9e planète, dans ce cas-là, elle aurait été capturée, donc elle aurait eu une phase d'errance, puis aurait été capturée dans le système solaire.
Voilà, et comme tous les jours, vous pouvez retrouver l'étude initiale et intégrale via le lien que nous venons de poster sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, selon une étude parue hier dans la revue Science, nous venons de découvrir un nouvel ingrédient dans l'atmosphère terrestre.
Un composé qui a toujours existé mais que nous n'avons encore jamais observé. Cette nouvelle classe de substances, ce sont les hydrotrioxydes, ROOH. Alors, grâce à la spectrométrie de masse, une équipe internationale vient d'obtenir des preuves directes que la formation de ROOH a lieu sous conditions atmosphériques. Selon les auteurs, chaque année, environ 10 millions de tonnes métriques se forment dans l'atmosphère par oxydation de l'isoprène. Leur durée de vie est courte, de quelques minutes à quelques heures, mais selon les auteurs, des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le rôle de ces composés hautement réactifs pour la santé et l'environnement.
Et on poursuit avec notre deuxième sujet fraîchement sorti comme chaque vendredi des laboratoires français selon une étude parue dans Communication Biology. Nous venons de découvrir que le système de communication des chimpanzés est complexe.
On sait que les chimpanzés ont un répertoire vocal qui est plutôt limité par rapport à d'autres espèces animales et de primates. Mais on sait aussi qu'ils ont un monde social complexe. Ils font par exemple des coopérations pour la chasse ou pour la défense de leur territoire. comment communique-t-il? Alors pour répondre à cette question, cette équipe internationale a analysé 900 heures de rush et 5000 enregistrements de chimpanzés sauvages en Côte d'Ivoire. Alors personne n'en avait vraiment analysé dans le détail, à l'échelle de leur répertoire complet, comment ces animaux combinent les cris les uns avec les autres. Les chercheurs ont découvert que ces primates ont seulement 12 types de cris simples, mais il les combine dans des séquences, dans 390 séquences différentes. C'est la première fois qu'on met en évidence un système de communication vocale chez les chimpanzés avec une telle complexité. Cédric Girard-Butoz est post-doctorant CNRS à Lyon et affilié à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste. Il est l'auteur de cette étude.
On trouve que non seulement ils créent des séquences vocales comme ça avec leur type de cri, mais en plus ces séquences vocales sont vraiment structurées. C'est-à-dire que les éléments apparaissent à des positions spécifiques. Donc il y a certains types de cris qui vont être en début de séquence, certains types de cris qui vont être en fin de séquence. Et en plus de ça, on a trouvé qu'il y a vraiment une relation, on va dire, structurelle entre les éléments. C'est-à-dire que s'il y a un élément, par exemple A, il va être très souvent suivi par un élément B et pas par un autre élément. Et aussi, il y a de la recombinaison. Donc, par exemple, ce qu'on appelle des bigrammes, c'est-à-dire des séquences vocales avec deux types de cris combinés, qui vont être recombinés dans des séquences plus larges, donc des séquences qu'on appelle des trigrammes, par exemple, avec trois types de cris. Par exemple, il y a le « ou », donc ça va faire quelque chose comme « ou ». Et après, il y a des cris qui vont être plus des grunts, par exemple. C'est des cris qui vont donner souvent à de la nourriture. Donc, ils vont être, par exemple, donc plus gluttural. Et donc, ils pourraient faire une séquence, par exemple, « ou grunt », qui va être « ou ». Donc ça va être une séquence avec deux types de cris. On a des types de cris donc simples, ce que je viens de vous faire, et on a ce qu'on appelle les types de cris qui sont panted, on dit en anglais, donc ils vocalisent en inhalation et en exhalation. Donc c'est-à-dire que par exemple ça va faire quelque chose comme c'est une vocalisation continue avec des éléments d'inhalation sonore entre les types de cris. Et ça on appelle ça des cris panted. Et donc par exemple on appelle quelque chose le pant grunt qui va être un cri de soumission et qui va changer de fonction par rapport à un grunt qui est un cri plus par rapport à la nourriture. Et ils peuvent mettre ces deux cris ensemble dans des soumissions très prononcées, par exemple. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que les gens disent qu'ils parlent, mais c'est vrai qu'on a trouvé une structure qui n'a jamais vraiment été documentée dans d'autres espèces animales à ce niveau-là, parce que les sons qu'on utilise dans notre langue n'ont pas de fonction et n'ont pas de sens, alors que les types de cris des chimpanzés ont des sens. Et donc c'est plus comme allier plusieurs sens ensemble dans une structure structurée, mais après c'est pas forcément de la grammaire, dans le sens où on n'a pas trouvé de la récursion comme on trouve dans la grammaire humaine. Ce qui est important, c'est que même si c'est très complexe par rapport à ce qui a été documenté chez d'autres animaux, ça reste quand même beaucoup plus proche que ce que les autres animaux sont capables de faire que du langage humain au niveau complexité, on va dire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que donc on a un ancêtre commun avec les chimpanzés et les bonobos. Et donc ce qu'on essaie de retracer, c'est à quel moment le langage a pu émerger et à partir de quel type de ce qu'on pourrait appeler un proto-langage il a pu émerger. Et ça peut nous donner une idée de ce qui était produit par un ancêtre commun aux deux espèces et qui n'existe plus. Du coup, on peut pas le sonder, comme on dit, on peut pas faire parler les fossiles.
Voilà pour cette première leçon, ce premier cours français chimpanzé avec des éléments de grammaire. On continue avec l'actualité des sciences de cette semaine en ultra bref, Natacha.
Cette semaine, un foyer de peste porcine africaine a été détecté en Allemagne, à 6 km de la frontière française. Les 35 porcs ont été abattus et aucun cas n'a été identifié dans les alentours. En Italie, le virus circule dans la faune sauvage depuis janvier. Il existe pour l'heure ni traitement ni vaccin. Le ministère français de l'Agriculture a annoncé hier qu'il lancera la semaine prochaine une cellule de crise. Cette semaine, nous avons pour la première fois séquencé le génome d'une des victimes du site archéologique de Pompéi. L'ADN d'un homme, mort lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79, a été extrait de l'os du crâne. Ces informations génétiques nous apprennent que cet homme était italien et avec la présence d'ADN de Mycobacterium tuberculosis qu'il souffrait de tuberculose. Pas de grande surprise, mais en paléogénomique, il s'agit d'une percée. Et enfin, cette semaine, nous avons peut-être une réponse à la question qui anime les paléontologues depuis des années, les dinosaures étaient-ils à sang chaud ou à sang froid? La réponse est les deux. Grâce à des indices chimiques préservés dans les fossiles, les chercheurs ont étudié les taux métaboliques de différentes espèces et estimé leur chaleur corporelle. Le stégosaure serait donc un animal à sang froid, comme les reptiles, et le T-Rex, lui, un animal à sang chaud, comme les mammifères et les oiseaux.
Et on termine comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables. Selon une étude parue dans Science Advances, les dauphins reconnaissent leurs amis en goûtant leur urine.
Oui, un peu comme les chiens, les dauphins s'inspectent les organes génitaux. Ils peuvent aussi se reconnaître par le goût. Une équipe internationale étudiait une espèce de grand dauphin. Les chercheurs ont versé devant eux des échantillons d'eau qui contenaient de l'urine, soit de dauphins familiers, soit d'inconnus. Il se trouve qu'en présence d'une urine familière, les dauphins passent trois fois plus de temps dans cette zone. neurones. Ces animaux utilisent donc des stimuli gustatifs pour reconnaître un ami, et leurs panaches d'urine sont peut-être des signatures gustatives.